commencer par saluer et remercier Monsieur le Général Pinamontaïro, chef de l'État-major général des armées, pour intervenir dans le cadre de l'ouverture de cette conférence. Remercier Monsieur le vice-amiral Arnaud Coustillère, commandant de la cyberdéfense française, et qui assurément a énormément de choses à faire en ce moment, étant donné le changement de gouvernement, et à monsieur également Christian Marc Lieflander, qui est chef de la section de cyberdéfense de la division des défis émergents à la sécurité dans le quartier général de l'OTAN. J'aimerais remercier également le colonel Paul Viagajnounch, commandant de l'école de communication et système d'information de l'OTAN, et le vice-président Miranda Kyle, qui seront responsables du panel qui suivra la séance d'ouverture. J'aimerais exprimer, au nom de la Commission de la Défense nationale que j'ai l'honneur de présider, un remerciement spécial à la présence des députés, notamment monsieur le député Aguiar Branco, qui a été récemment ministre de la Défense du Portugal, à Madame l'ambassadeur et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des ambassades, permettez-moi de saluer ceux qui sont qui sont aujourd'hui présents et qui, pour différentes raisons, s'associent à cet événement. J'aimerais mentionner la présence des magistrats également, qui ont fréquenté et ont participé au cours de défense nationale et qui sont ici présents également, et évidemment des paroles toutes spéciales aux représentants des différentes branches de nos armées, les officiers qui nous font l'honneur d'être ici et qui nous garantissent la sécurité de notre État. Donc un grand merci à eux tous. J'aimerais exprimer au nom de la Commission de la Défense nationale la présence des participants et à tous ceux qui ont voulu participer à cette conférence, et j'aimerais mentionner que c'est la quatrième conférence que la Commission de la Défense nationale réalise. J'aimerais aussi saluer Monsieur le vice-amiral qui nous accompagne sans arrêt, et c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Donc j'aimerais, comme je l'ai dit, que c'est donc la quatrième édition que nous réalisons. Donc, au sein de la Commission de Défense nationale, avec le travail des députés et avec l'engagement et le dévouement du vice-président Milan de Calle et des assistants et fonctionnaires du Parlement et monsieur et le colonel Villet Brito, remercier le fait que dans le cadre de ces conférences, nous ayons l'occasion de débattre des thèmes qui sont actuels, qui sont des défis, et surtout des visions qui sont partagées et qui aident à construire, du point de vue conceptuel et politique, une intervention plus structurée de cette Commission de défense nationale. Nous avons eu l'occasion de réfléchir sur la stratégie de défense et sécurité de l'Union européenne. Nous avons eu une autre conférence qui a précédé le sommet de Varsovie, donc auquel a participé le secrétaire adjoint de l'OTAN. Nous avons eu une conférence sur les matières de coopération en termes techniques et militaires, et maintenant le thème qui nous occupe, la cyberdéfense pour le 21e siècle. Donc, c'est vraiment le moment opportun de traiter ce sujet, étant donné les récents événements qui ont marqué l'actualité. Il y a eu une attaque sans précédent dans le cadre du cyberespace, dans des États, des institutions, des économies, de l'économie et organisations de la société civile, comme vous le savez. Récemment, un ensemble élargi et global d'attaques dans le cyberespace ont affecté non seulement les États, comme aussi des organisations de la société civile, des entreprises, et cela révèle que nous faisons face à un concept plus diffus de ce qu'était le concept classique du point de vue de la sécurité et de la défense. Mais parallèlement phénomène de terrorisme qui ont eu lieu récemment, d'ailleurs à Manchester, révèle que la défense se passe fondamentalement contre des attaques sans visage, des attaques aveugles et qui ont lieu dans des circonstances absolument inimaginables. Cela signifie que cette conférence acquiert une importance toute particulière et exige une réflexion politique. Les démocraties à l'heure actuelle vivent menacées par des circonstances complètement nouvelles. Récemment, aux États-Unis, dans le débat électoral qui a eu lieu, et plus récemment encore dans le débat électoral qui a eu lieu en France, et maintenant celui qui a lieu en Allemagne, il y a une suspicion, il y a une intervention dans le cyberespace à travers la production d'informations fausses qui essaient d'une certaine façon fausser le débat politique démocratique des États et par là même d'influencer les options démocratiques des peuples. Et par conséquent, nous vivons un temps de véritables menaces à des valeurs qui sont essentielles comme le choix informé des démocraties. Et dans cette circonstance, nous vivons en permanence avec la nécessité d'avoir la capacité de réagir contre ces menaces et contre ces défis, et répondre à ces défis. Aujourd'hui, la défense joue un rôle extrêmement important qui essaie de s'en prendre à des ennemis sans visage. Il n'y a plus l'aspect du conflit classique n'existe plus. L'Europe et le Portugal se préparent à ces temps perturbés. Les attaques de 2007-2008 en Estonie et en Géorgie ont déterminé qu'aussi bien l'OTAN, à travers le nouveau concept stratégique approuvé à Lisbonne en 2010, que l'Union européenne, avec la décision de donner corps au Computer Network Corporation, ont convenu du point de vue institutionnel ces organisations afin de répondre du point de vue de la cyberdéfense à cette nouvelle réalité qui se dessinait dans le cadre des concepts de sécurité et défense des sociétés. Et c'est dans cette circonstance au Portugal que le gouvernement, à travers l'ordonnance 3972-2013, a attribuer davantage de tâches pour organiser une réponse aux défis de la cyberdéfense. Et c'est à travers la résolution du Conseil des ministres 36-2015 que la stratégie nationale de sécurité du cyberespace a déterminé les orientations qui ont donné lieu à ce qu'il y ait des orientations stratégiques et militaires dans le cadre de la cyberdéfense de la part de l'état-major afin de développer tout le travail conceptuel dans l'orientation stratégique de la défense au Portugal. Cette commission a eu l'occasion de visiter le centre de cyberdéfense installé dans l'état-major des armées et constater sur place les moyens mis à disposition dans cet espace installé, mais toutes les ressources et les moyens et qui travaillent en réseau aussi avec les organisations civiles qui, dans le cadre de la cyberdéfense et sécurité, agissent avec le gouvernement portugais au quotidien et qui exercent une protection de notre État, de notre organisation, de nos organisations, de notre société et notamment de notre mode de vie occidental. J'aimerais à cette occasion dire que cette visite a permis de constater que nos armées, dans le cadre de la cyberdéfense, répondent au plus haut niveau et sont préparées à répondre au niveau de ce qui est plus exigeant de ce qu'exige l'OTAN. de la part des États membres. Et j'aimerais exprimer au chef de l'état-major général des armées, le général Arthur Pignamonteri, et aux autres responsables, exprimer au nom de la Commission de défense nationale notre gratitude, non seulement pour cette occasion de voir, dans le cadre des compétences de contrôle qui nous sont attribuées, de voir ce qui est réalisé pour défendre l'État démocratique et l'État de droit dans lequel nous vivons. J'aimerais mentionner que dans le cadre du partage d'informations et de contrôle permanent, de veille permanente, il est important que des orateurs étrangers responsables de l'OTAN ou dans les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, tels que la France, pour traiter un thème aussi sensible où le partage d'informations est essentiel pour développer les capacités, car c'est un travail inachevé et c'est un défi quotidien auquel il convient de répondre au jour le jour. Et c'est dans ces circonstances que cette conférence revêt une importance toute particulière, car nous savons qu'il y a une mutation stratégique en cours, et cette mutation stratégique aujourd'hui implique qu'il y ait une capacité des responsables politiques d'être informés des concepts techniques et de ce qui sont les principes qui définissent cette nouvelle orientation technique, qui garantissent des décisions au niveau politique capables de répondre aux besoins et aux besoins de ceux qui ont la responsabilité de veiller à notre sécurité et à notre bien-être. Et donc, une fois encore, j'aimerais remercier votre présence à tous et exprimer au chef de l'état-major général des armées, notre solidarité et notre gratitude pour le travail que vous avez réalisé jusqu'à présent et remercier toutes les entités ici présentes, car vous avez tous réalisé un travail extraordinaire, un service extraordinaire. Et donc, au nom de la Commission de défense nationale, nous vous remercions. Monsieur le Général, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission de défense nationale, je commence par remercier les aimables paroles que vous avez dirigées aux armées, notamment en ce qui concerne le centre de cyberdéfense, qui est vital pour la continuité de la protection et sécurité de nos communications et systèmes d'information. Et comme vous l'avez si bien dit, le centre de cyberdéfense est opérationnel. Il a été lancé par le gouvernement précédent et le gouvernement actuel lui a donné suite, car, comme vous le savez, c'est un travail inachevé. Et plus on avance, nous avons toujours l'impression d'être derrière la menace, de courir après la menace que nous vivons. Donc, je remercie tous les militaires, au nom de tous les militaires, je remercie vos paroles. J'aimerais remercier également et reconnaître la réalisation opportune de cette conférence de par l'intérêt, d'ailleurs, qui est transversal en ce qui concerne la cyberdéfense. Monsieur le vice-président de la Commission de défense, messieurs les députés de l'Assemblée nationale, messieurs les amiraux et généraux, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, illustres invités, notamment les invités conférenciers qui enrichiront cette conférence. Mesdames, messieurs, nous devons reconnaître qu'au cours des deux dernières décennies, le monde est devenu plus connecté et hautement dépendant de l'utilisation que nous souhaitons sûre, fiable, ouverte d'Internet et du cyberespace. Cette croissante dépendance est nécessairement et impérativement influence le panorama de sécurité nationale et internationale et rend évident le besoin de constituer une capacité de coopération de sécurité du cyberespace à même de donner réponse aux défis actuels et futurs de sécurité. Dans ce contexte, il est prioritaire d'assurer la protection des réseaux de communication pour les forces, les missions et les opérations militaires. Il y a des questions essentielles et complexes dans ce domaine qui vont depuis la défense des communications des systèmes d'information des armées dans des contextes domestiques et de déploiement hors du territoire national jusqu'à la protection des infrastructures critiques nationales. Contre des attaques cybernétiques qui sont devenues beaucoup plus destructives. Le cyberespace est souvent décrit comme le cinquième domaine des opérations militaires et critique pour la défense nationale et internationale, comme les domaines classiques de la mer, de la terre, de l'air et de l'espace. La réalisation réussie des opérations militaires continuera à dépendre de la disponibilité et liberté d'action dans le cyberespace. De plus en plus, il est nécessaire qu'il y ait des capacités de cyberdéfense robustes, résilientes, pour soutenir les infrastructures, les forces, les missions et les opérations nationales et des alliances auxquelles nous faisons partie, notamment l'Alliance Atlantique et dans l'Union européenne. Vous savez tous que le sommet de Varsovie de l'Alliance Atlantique en juillet 2016, les alliés ont assumé formellement l'engagement de renforcer leurs propres capacités de cyberdéfense et ont reconnu le cyberespace comme un nouveau domaine opérationnel. Et cela est un changement stratégique très qualitatif. Dans ce que l'on appelle le Cyber Defense Post, signé à Varsovie, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à garantir que l'Alliance accompagne la rapide évolution du scénario de la menace cybernétique et que les missions soient capables de se défendre dans le cyberespace tel qu'elles le font dans les autres domaines, mer, terre, air. La déclaration conjointe de l'Alliance et de l'Union européenne signée à la même occasion a donné un nouvel élan à la coopération entre l'Alliance Atlantique et l'Union européenne, en soulignant le besoin d'adopter un cadre multidimensionnel et une approche synergétique pour renforcer la complémentarité des efforts de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace. Étant donné les restrictions sévères budgétaires et à la rareté des ressources, il y a eu des initiatives des Smart Defense et Pooling and Sharing qui sont vues comme une façon pragmatique et cohérente et qui s'intègrent parfaitement dans le cadre de la cyberdéfense, capable d'encourager donc les capacités renforcer les capacités de défense de l'Union européenne et de l'OTAN pour faire face aux défis. J'aimerais dire que notre pays a toujours été en tête de peloton pour ce qui est de reconnaître la coopération qu'il est nécessaire de mener, d'assurer dans les temps qui courent. L'école de communication des systèmes d'information de l'Alliance en Italie également et qui s'installera aussi à Oeiras au Portugal et ceci est important. Cette école fondera une académie de systèmes d'information et de cyberdéfense de l'OTAN qui jouera un rôle crucial dans la procédure de développement des capacités de cyberdéfense de l'Alliance en garantissant une offre cohérente et large de formation dans les domaines de communication, système de communication et cyberdéfense. Au niveau de l'Alliance et au niveau de l'Union européenne, le Portugal fait des efforts et contribue à renforcer la coopération dans ce domaine, notamment dans le domaine de l'éducation, de la formation en cyberdéfense. Comme signe clair de cet engagement national, le Portugal participe à un projet national de formation en cyberdéfense dans le cadre de l'initiative de l'Alliance Atlantique de Smart Defense et dans le cadre de l'Union européenne dans la discipline cyberdéfense UE avec la France. Donc, j'aimerais également souligner le besoin urgent de créer des mécanismes de coopération étroits, agiles et opérationnels entre toutes les entités ayant des responsabilités en la matière et qui traversent des frontières nationales, mais aussi qui transposent des frontières institutionnelles et de compétences. Dans ce sens, il appartient aux armées de contribuer à la consolidation d'un cyberespace sûr au service de la société et s'articuler avec les autres acteurs sectoriels, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des infrastructures critiques, en collaborant de façon étroite avec les structures nationales responsables de la cybersécurité, cybercrime, cyberespionnage et cyberterrorisme. Je dirais que dans ce domaine, il ne peut y avoir des jardins secrets. Donc la récente signature d'un protocole de coopération entre le Centre de cyberdéfense et le Centre national de cybersécurité, signé le 9 mai dernier, et qui a été un moment formel de confirmation et de consolidation d'une coopération durable et continue qui est essentielle pour la défense du bien-être collectif de notre société d'information. En regardant les missions légalement définies, attribuées à ces deux structures, le Centre de cyberdéfense dans le cadre des armées, le Centre de cybersécurité du cabinet de sécurité nationale, leurs complémentarités sont essentielles. Et il faut qu'il y ait une étroite collaboration et une interopérabilité entre elles, qui existent d'ailleurs, et avec les acteurs restants, notamment les forces et services de sécurité, les entités judiciaires, les entités publiques et privées, et encore l'Académie, dans le sens d'établir et de rendre plus étroits les liens de confiance dont nous bénéficierons tous, dans un monde qui de plus en plus est interlié, où l'information circule à des vitesses qui dépassent la capacité humaine et qui est de plus en plus dépendante du cyberespace. Cette entité multidimensionnelle, avec de nature fortement immatérielle et non confinable au canon traditionnel de la territorialité et identité, où les défis sont en mutation constante et renouvellement, ce n'est qu'à travers un effort collectif et un effort de coopération que nous pourrons avoir une utilisation libre, fiable et sûre du cyberespace de la part de tous les citoyens et de toutes les entités publiques et privées. Les défis que ces nouvelles réalités apportent à tous les niveaux, y compris dans l'organisation de l'État et de la distribution des responsabilités et tâches, implique une réflexion profonde donc je félicite la Commission de défense nationale pour avoir organisé cette conférence sur un thème qui affecte tous et tous sur le plan particulier collectif. J'aimerais vous souhaiter une bonne conférence et remercier l'occasion d'être présent à cette initiative. Et je souhaite que sa réalisation porte ses fruits pour renforcer les synergies nationales et internationales afin de promouvoir la prise de conscience du besoin d'une coopération entre les différentes entités et pour promouvoir également une culture de la cyberdéfense afin que nous ayons un cyberespace plus inclusif, plus sûr et renforcer ainsi la paix et la sécurité internationale en assurant la stabilité interne des États et leur développement et bien-être. Merci.
Si nous donnez licence, agora é só mudar o painel.
Nous allons donc changer le panel. Donc, au nom de la Commission de la Défense nationale, j'aimerais vous donner ce souvenir. Nous allons donc avancer et procéder au panel. J'invite donc les orateurs à venir me rejoindre.
Bonjour à tous, nous allons donner suite à notre séance de travail grâce à ce panel avec la participation du chef de section cyber de l'OTAN et également avec la présence de monsieur le vice-amiral Arnaud Cuisselière, qui est également le commandant de la composante donc cyber en France. Et nous avons également la participation de monsieur le colonel Paulo Viegas Nunes, qui est également le commandant de l'école de communication et des systèmes de l'information de l'OTAN, qui avait son siège à Latina en Italie et qui devra désormais avoir son siège ici au Portugal, dans la ville de Oeiras. La raison d'être de cette conférence, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, notamment par les orateurs qui nous ont précédés, sont dues à la situation actuelle et aux défis, aux enjeux que nous avons à affronter en termes de cyberdéfense au cours de ce premier quart de siècle. Comme vous le savez, au cours du sommet de Varsovie, quelques décisions importantes ont été prises concernant les questions de la défense. Au cours de ce sommet, on a défini que les attaques conventionnelles armées, donc on allait considérer ces attaques conventionnelles armées, le terrorisme bien évidemment, qui est de plus en plus présent à l'heure actuelle. Avant-hier, une attaque terrible a eu lieu à Manchester, au Royaume-Uni, mais nous allions également considérer comme actes armés conventionnels les questions de cybersécurité et de cyberdéfense. En établissant ces deux points comme étant essentiels, on a une conceptualisation bien évidemment différente en termes d'approche du terrorisme, mais également des questions cyber. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que Cette situation donc s'est produite, cette attaque en Angleterre, mais il y a quelques temps, une attaque globale a eu en termes cybernétiques qui a eu des conséquences et des retombées dans différents pays, dans différentes structures. C'est-à-dire qu'en ce moment même, nous sommes en train de traiter et d'aborder, on dirait que cette réunion est tout à fait opportune, car nous sommes en train de plus en plus d'étudier et d'analyser les composantes essentielles des attaques et des menaces qui sévissent de nos jours un petit peu partout. L'espace cyber est un pilier fondamental de notre vie moderne. Il s'agit également d'une partie intégrante de l'économie mondiale qui a d'ailleurs revitalisé la société civile dans un monde industrialisé qui a généré des révolutions dans les pays développés, qui a créé de nouvelles possibilités pour le gouvernement en termes de formation, en termes de fourniture de services aux citoyens. Mais par ailleurs, des menaces sont également présentes par rapport à ce cyberespace qui se traduisent par les questions du crime cybernétique, par l'espionnage, par différentes situations et qui remettent en cause et viennent perturber le fonctionnement normal de nos sociétés. Dans le domaine de la défense, qui est celui qui nous tient à cœur ici aujourd'hui, les menaces sont très importantes et ont deux points essentiels de convergence. Le premier est bien naturellement ce qui peut menacer la sécurité nationale, non pas simplement via la pénétration des réseaux qui sont liés aux forces armées, mais également les attaques qui peuvent être faites au système, notamment à ce que l'on appelle en général les infrastructures critiques, telles que les transports, les communications, les services d'ordre divers et des installations importantes. Pour des locaux importants pour la défense de nos États, de nos pays, et en termes généraux, donc pour la défense de nos États en général et des pays au niveau mondial. Donc nous avons ces attaques cybernétiques qui ont pour but de modifier l'équilibre et la situation de la société dans laquelle nous vivons, de perturber, de dégrader et de tromper via des activités subversives et des actions qui peuvent également avoir des retombées sur le plan politique et qui peuvent également détruire les systèmes des ordinateurs et des réseaux Internet qui sont extrêmement importants à l'heure actuelle dans l'utilisation du cyberespace dans nos vies de tous les jours. Nous avons pensé qu'il était très utile de mettre en œuvre une conférence comme celle-ci, les différents pays face à cette situation ont commencé à mettre en place des stratégies nationales pour faire face à ces menaces. Nous tous, nous rappelons que lors de la conférence, à l'occasion de la conférence qui s'est tenue à Prague en 2002, organisée par l'OTAN, on avait déjà décidé à l'époque de trouver des voies pour faire face à ce type de menaces. Et vous vous souvenez certainement tout ce qui s'est également produit en Estonie en 2007, tout ce qui s'est passé en Géorgie en 2008, et qui s'est traduit par des attaques, une nouvelle réalité qui, à l'époque, a commencé à développer le concept de la guerre hybride et qui se traduit par les attaques cybernétiques. Il y a eu également des décisions qui ont été prises lors du sommet de 2014, organisé par l'OTAN également à Wales, et qui a fait preuve d'une approche très profonde pour justement aborder ces questions des attaques cyber. Mais les questions qui ont été abordées à Varsovie concernant le terrorisme et les questions donc cybernétiques peuvent et qui les ont mises donc au stade de attaques et qui ont surtout prôné qu'il fallait que les États mettent en œuvre des stratégies et des initiatives en rassemblant diverses institutions au sein de l'OTAN. Parce que précisément sur l'OTAN qui a pris le leadership de cette sécurité cybernétique, il y a eu la mise en œuvre des centres d'excellence, hein, se trouve en Estonie, pour analyser de manière approfondie et suivre, non pas au sein de la structure de l'OTAN, mais proche de la structure de l'OTAN, tout ce qui sera l'évolution et les études qui devront être menées par rapport à ces sujets. Et par ailleurs, les différents États ont également mis en œuvre des initiatives et des stratégies. Aux États-Unis, peut-être que c'est l'exemple le plus prégnant, c'est un pays leader. On a mis en place un commandement propre pour ce qui est de la cyberdéfense. Ils ont un commandement cyber qui se trouve rattaché à l'Agence de sécurité nationale, mais également dans d'autres pays, on a établi des conseils, différentes institutions pour pouvoir suivre de très près ces thématiques. La France, par exemple, a mis en œuvre un plan, donc le Cyber Defense Spec, donc qui va reposer sur certaines initiatives dans ce domaine. Et je suis sûre que, évidemment, notre invité français va certainement nous en dire davantage à ce propos, mais au Royaume-Uni également et dans d'autres pays tels que l'Allemagne via des conseils nationaux ou des interliaisons avec les agences de sécurité cybernétique. On a donc mis en œuvre des cyberespaces très importants dans différents pays. Comme Monsieur le Président de la Commission a eu l'occasion de le dire, au Portugal, nous avons également mis en œuvre pas mal de projets. Nous avons d'ailleurs le chef d'état-major des armées nous a déjà présenté tout ce qui est en train de se faire dans ce contexte. Pour ce qui est des initiatives liées à la partie cybernétique, mais il a également présenté une question qui est très importante, la connexion avec la société civile. Il nous a parler de la dichotomie entre cybersécurité et cyberdéfense, parce que la cyberdéfense est plus liée aux structures militaires, tandis que la cybersécurité est plus rattachée à tout ce qui concerne l'administration intérieure et donc le secteur d'action intérieure au niveau du Portugal. Aux États-Unis, il y a un lien direct entre le département de la défense et ce qu'on appelle le Homeland Department, c'est-à-dire une sorte de ministère de l'intérieur des États-Unis. Il y a donc une interconnexion entre ces secteurs qui est de plus en plus fondamentale car la plupart des attaques cybernétiques dépassent les structures essentielles des forces armées. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, il peut y avoir une cyberattaque à une simple entreprise, simple entre guillemets, bien sûr, qui est par exemple une action d'espionnage et ceci peut évidemment être très important sur le plan économique pour un pays donné. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre en œuvre cette conférence. Le passé nous a montré que nous avons de plus en plus besoin de mettre en œuvre des stratégies concernant ce sujet et sans plus tarder, je donne tout de suite la parole à Monsieur le vice-amiral, pardon, Arnaud Coustière, commandant du département de la section française de cyberdéfense. Nous avons déjà son CV, toutes les responsabilités qu'elle a assumées dans ce secteur. Je vous donne donc la parole, monsieur, donc vice-amiral Arnaud Coustière.
Oui, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je suis très honoré de venir m'exprimer devant vous et je voudrais saluer tout d'abord les soldats portugais qui sont à côté des nôtres, aussi bien en République centrafricaine, au Mali qu'en Golfe de Guinée. Pour ma part, je suis le commandant de la cyberdéfense française. Ma responsabilité porte sur le ministère de la Défense. Je suis aujourd'hui directement rattaché au chef d'état-major des armées et le conseiller du ministre pour le domaine de la cyberdéfense. Je vais simplement vous apporter en toute simplicité mon témoignage. Je suis en poste depuis 2011. et j'ai vécu pendant 6 ans la montée en puissance et la construction de la cyberdéfense, de la capacité militaire de cyberdéfense, je dirais même de la capacité de combat française dans le domaine de l'espace numérique. Quand j'ai pris mes fonctions en 2011, nous étions à peu près une petite centaine sur le cœur de métier de la cyberdéfense sur l'ensemble du ministère. Quand je dis cœur de métier, c'est le volet défensif et le volet offensif. Aujourd'hui, nous avons construit pas à pas notre capacité, le périmètre en a été totalement élargi et mon périmètre de responsabilité aujourd'hui va de la prévention, de la protection, à la défense, à la réaction face aux attaques et à l'engagement dans l'espace numérique de l'ensemble des ennemis que le président de la République nous définit. Donc je suis réellement aujourd'hui à la tête d'une capacité de combat qui est engagée dans plus d'une quinzaine ou une vingtaine d'opérations, donc j'exerce le contrôle opérationnel, un petit peu comme d'autres autorités, c'est mes camarades britanniques ou américains. Nous disposons à peu près sur l'ensemble du ministère de la Défense aujourd'hui d'environ 2500 combattants numériques répartis dans l'ensemble des capacités, dans l'ensemble des services, directions du ministère, mais que je commande à partir d'une sorte de plateforme de commandement, à partir d'un centre d'opération, à partir desquels je active H24, à partir desquels j'exerce le contrôle opérationnel des unités expertes, qu'elles soient des unités de type défensive ou des unités qui engagent nos ennemis. Donc, quand nous avons bâti la cyberdéfense, donc à partir d'initiatives très souvent venant des parlementaires français, puisque dans la cyberdéfense française, ce sont des rapports parlementaires, des sénateurs ou des députés qui ont lancé nos affaires, qui ont permis d'écrire ensuite les livres blancs et ensuite de nous donner les moyens de nos ambitions à travers des lois de programmation militaire, la dernière, donc des lois avec des étapes importantes, 2008-2013, et probablement une future loi avec l'arrivée de notre nouveau gouvernement pour lequel le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, qui s'est très largement élargi, sera là aussi une forte priorité. Élément important, quand nous avons bâti la cyberdéfense, nous l'avons bâti en bâtissant au départ une communauté. Une communauté qui a su, dès le départ, transcender les frontières, puisque cette communauté a rassemblé des services compétents du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère de la Défense et notre agence gouvernementale qui dépend des services du Premier ministre. Donc dès le début, l'ADN de la cyberdéfense française, c'est cette communauté qui se connaît, qui partage, même de façon informelle, et qui se tient informée face à toutes les attaques et qui forme un cœur à partir duquel on est venu mettre ensuite un certain nombre de structures. Cet élément est extrêmement important et je pense que l'enjeu de la prochaine de livre blanc, c'est de davantage arrimer tous les services du ministère de l'Intérieur à cette démarche de cybersécurité. Et le dernier exemple d'attaque informatique, ou du moins de grande crise informatique, que l'on appelle en jargon WannaCry, montre que la cybercriminalité avec des capacités de sabotage est quelque chose qui avance de façon extrêmement galopante et qu'il faut que l'on coopère très très rapidement au sein de l'ensemble des services de l'État pour échanger des informations, pour arriver à avoir une estimation de la gravité d'un malware, de la gravité d'une crise. Si je voulais vous donner quelques mots clés que j'ai retenus de mes 6 à 8 ans d'expérience dans la montée en puissance, la première, le défi, c'est la ressource humaine. Les capacités cyberdéfense font appel avant tout de la ressource humaine. Et derrière la ressource humaine, c'est de l'innovation tactique, de l'innovation dans les usages, de l'innovation technologique. La technologie, elle existe. On peut l'acheter, on peut se la payer. Par contre, si derrière, on n'a pas de capacité d'innovation, si on n'a pas de combat de volonté, parce qu'une fine, dans le cyberespace, c'est une volonté contre notre volonté, on est assez vite dépassé. Donc, cette ressource humaine est l'élément le plus important. Deuxième chose, l'espace numérique, il est virtuel. Donc, pour échanger dans cet espace, il faut être capable d'avoir de la confiance. Donc, il faut que les États garantissent la confiance entre le citoyen et l'État. Et les attaquants vont essayer de saper cette confiance par tout moyen. Et vous le voyez bien. Aujourd'hui, la cyberdéfense est en train de s'élargir aussi à la lutte contre la propagande, à la lutte contre les rumeurs. Pour un État, c'est très compliqué de savoir qu'une partie de sa population a plus confiance dans un rappeur que dans les organes de presse officiels, que la majorité des jeunes sont susceptibles à tout n'importe quelle rumeur qui passe sur le net, alors que quelqu'un de sérieux n'aura que quelques centaines de followers sur les réseaux sociaux, alors qu'un joueur de foot arrive à en avoir 10 millions. Donc ces éléments-là reviennent redessiner les points. Deuxième chose, je l'ai dit, coopération au service de l'État, échange d'informations très rapide, que les différents services de l'État se connaissent et travaillent. Aujourd'hui, avec WannaCry, par exemple, j'ai principalement travaillé avec le ministère de l'Intérieur, avec la police, avec Europol, plus qu'avec l'agence gouvernementale, puisque ce n'était pas une attaque à fin stratégique. Enfin, dernière chose, C'est un espace où l'ennemi avance gris et c'est un espace où l'attaque indirecte est la mode d'action le plus probable. Ce qui veut dire que pour nous, forces militaires qui avons des systèmes importants à défendre, où la numérisation est très très avancée, aussi bien que ce soit dans nos avions, dans nos bateaux, dans nos véhicules blindés, quelqu'un qui va nous attaquer, il ne va pas nous attaquer en frontal, il va nous attaquer par l'environnement, il va attaquer par la logistique, il va attaquer par le lien qu'on a avec les industriels. Donc c'est un challenge et un défi extrêmement important. Et si nous ne prenons pas garde à cette approche globale, on pourrait très bien être neutralisé dans nos ports et dans nos bases avant d'avoir pu déployer nos forces. Et c'est des éléments particulièrement importants aujourd'hui. Enfin, si je remets un petit peu en perspective, quel est l'enjeu qui est devant nous? C'est-à-dire que nous, tout représentant de l'État et acteurs des parlements, c'est accompagner la transformation numérique. Finalement, on parle beaucoup de cyber, c'est quelque chose d'assez jargonnant. C'est un mot dans lequel on met des tas d'autres mots qui sont un peu compliqués. Par contre, la réalité, c'est la transformation numérique, je voudrais dire la révolution numérique dans toutes nos organisations qui n'en est aujourd'hui qu'à ses débuts et qui va amener aussi de profondes réorganisations. Dans ce contexte général, nous, militaires, nous sommes un des acteurs de la sécurisation de cet espace avec d'autres camarades, des ministères de l'Intérieur et ainsi de suite. Les mots-clés, je vous l'ai dit, confiance, ce que transporte l'espace numérique, c'est des données. Ces données, on va se battre pour les protéger, d'autres vont se battre pour les capter, et c'est bien le cœur de ces choses-là. Derrière tout ça, on voit que l'ensemble des frontières sont gommées, on voit que les acteurs avancent masqués, c'est quand même la zone extraordinaire comme zone de crise, c'est une zone où les groupes avancent avec un faux-nez. C'est très compliqué de savoir s'ils sont rattachés ou pas rattachés à un État, s'ils sont des libertaires, s'ils sont des groupes d'influence, ou s'ils sont de purs cybercriminels, ou si finalement c'est un mélange de tout ce genre de choses. Et en tout cas, ce que l'on constate, c'est que la cybercriminalité est quelque chose de galopant, et c'est quelque chose dont les outils sont utilisés aussi à des fins stratégiques. À titre d'exemple, vous avez aujourd'hui dans le monde plus de morts avec la Kalachnikov qu'avec le missile de croisière, et que c'est un tout petit peu pareil dans l'espace numérique. Vous prenez le dernier malware qui pose des choses intéressantes. La crise WannaCry est très intéressante, puisque la crise WannaCry, c'est une attaque assez classique en cybercriminalité, avec d'un côté un mail piégé, chose classique, il y en a des centaines par jour, ce type d'attaque. De l'autre côté, ce qu'on appelle en jargon un cryptolocker qui vient crypter vos données. Là aussi, il y en a des centaines tous les jours et certains rapportent beaucoup plus d'argent qu'au WannaCry. Par contre, dans WannaCry, vous avez un outil de propagation latérale dans les réseaux qu'on appelle en jargon un VER qui vient d'une prolifération de fuites venant de nos camarades américains de la CIA et l'NSA. Donc vous avez un groupe de hackers qui a assemblé une arme, qui a assemblé une capacité avec des outils assez classiques, bas de gamme. Et au milieu, il a mis un espèce de truc hyper puissant, imaginez un propulseur de fusée, et qui n'est pas, toute hypothèse, n'est pas forcément capable de maîtriser son outil. Et cet outil, on n'est pas ciblé, on n'est pas dans la liste des GTM, mais il s'approche de vos réseaux, et ils peuvent proposer des dégâts extrêmement importants à l'intérieur de vos réseaux. Et je pense que le week-end dernier, dans toutes les grandes organisations, tous les services informatiques ont remis à jour leurs réseaux. L'image, c'est que finalement, une attaque qui ne vous cible pas, dont vous n'êtes pas la cible, peut provoquer des dégâts extrêmement importants chez vous. Et l'espace numérique, quand vous regardez la menace, c'est quasiment des surprises stratégiques, surprises tactiques, quasiment tous les 6 mois. Et quasiment tous les 6 mois, on est challengé. 6 mois avant, c'était des groupuscules, on ne sait pas trop quelle était l'origine, qui venaient tester la résilience du net par des attaques utilisant les objets connectés. On a vu des plaques, par exemple vietnamiennes, de l'Internet tomber pendant quelques heures. On a vu l'Internet complet du Liberia tomber pendant quelques heures. Donc derrière, on voit apparaître des outils qui pourraient isoler des parties d'État, qui pourraient isoler des plaques régionales dans des endroits plus ou moins mal défendus. Je passe, quand vous regardez aussi la géopolitique des câbles sous-marins, vous avez la géopolitique des flux de données, comme autrefois vous aviez la géopolitique des flux de transport à travers le monde maritime. C'est un tout petit peu la même chose, et ces flux de données conditionnent l'économie, conditionnent les relations entre les États et conditionnent aussi l'emploi des forces militaires. Donc cette menace, elle est de tout ordre. On la voit qui est galopante. Elle est particulièrement adaptée au temps de crise. Elle vise très souvent aujourd'hui à déstabiliser en faisant perdre confiance. Ça s'attaque à l'État, ça s'attaque aux citoyens. Et vous voyez de plus en plus souvent des combinaisons d'attaques avec un petit niveau technique combiné à des opérations de manipulation de l'information. Les États-Unis, avec les affaires d'élection, en sont un meilleur exemple. Et de plus en plus, des outils de sabotage qui sont à la disposition du plus grand nombre. Le tempo est très rapide. Là-dedans, il faut que les services de l'État soient capables de se coordonner, d'analyser, d'anticiper et de comprendre si un début d'attaque est quelque chose de grave pour nous ou pas grave pour nous. Le début de la crise WannaCry, le plus compliqué pour nous, c'est de savoir est-ce que j'ai été ciblé, est-ce que c'est dangereux pour moi, est-ce que ça quels en sont les effets. Donc ça, on a bien souvent que quelques heures parfois pour réagir quand vous êtes face à quelque chose qui se propage extrêmement rapidement et qui est rentré dans vos réseaux. Donc vous avez besoin d'avoir l'anticipation. Est-ce que la France est ciblée, par exemple? Combien nos services de renseignement voient se passer par capteur de quantité de mails à destination d'adresses françaises? Ce sont des éléments d'appréciation qui sont extrêmement importants pour que qu'on puisse anticiper sur la manœuvre de nos dispositifs et isoler un certain nombre de nos réseaux. Pour ça, il faut partager, coopérer avec le ministère de l'Intérieur de plus en plus, avec les agences gouvernementales. Dans ce contexte, qu'avons-nous fait? Dans ce contexte, on a eu une démarche sous l'égide du Premier ministre et de la présidence de la République, une démarche qui était une approche globale et qui avait commencé en 2008. Tout d'abord, on a beaucoup travaillé sur notre cadre juridique et je pense que le cadre juridique français aujourd'hui est un des cadres juridiques depuis la loi de programmation militaire de 2013 le plus complet et le plus achevé. Premier principe de base, il sépare totalement ce qu'est l'action des services de renseignement et les actions d'interception dans l'espace numérique, dans le but de protéger la liberté de nos citoyens, protéger la vie publique. Le cadre d'action de nos services de renseignement sont particulièrement aujourd'hui encadrés, même si on a des lois d'exception liées au terrorisme. De l'autre côté, il donne un cadre bien formalisé pour les acteurs de la cybersécurité. Au premier lieu, bien sûr, vous trouvez le rôle de l'Agence nationale gouvernementale qui est rattachée à notre Premier ministre et qui a aujourd'hui un rôle de régulation, un rôle de certification, c'est-à-dire qui va certifier un certain nombre de prestataires de services qui seront autorisés à aller faire des inspections, des travaux ou de la remédiation chez les entreprises que l'on considère d'intérêt vital ou les entreprises qu'on considère stratégiques. Tout ça est encadré par la loi, encadré par des décrets. De l'autre côté, ces entreprises d'intérêt stratégique ou d'intérêt vital sont obligées aujourd'hui de déclarer à l'État un certain nombre d'incidents. Donc ils sont obligés d'ouvrir leurs portes aux services de cybersécurité qui vont aller les aider. C'est quelque chose qui est aujourd'hui dans la loi française et qui est appliqué par toute une série de décrets d'application à l'intérieur de nos 11 ou 12 secteurs d'activité. Enfin, la loi autorise les acteurs de la cybersécurité à mener un certain nombre d'actions vis-à-vis d'un attaquant, non pas pour aller détruire un attaquant par de la riposte, mais pour prendre toutes mesures nécessaires permettant d'arrêter les effets d'une attaque contre nos systèmes. Donc première étape qui protège légalement, au sens du droit français, le travail journalier des acteurs de la cybersécurité. Dans ce domaine-là, nous avons ma chaîne à un extrêmement fort niveau de coopération avec l'agence gouvernementale, au point que nos centres opérationnels, le centre opérationnel défensif du ministère de la Défense et le centre opérationnel de l'agence gouvernementale sont situés exactement dans le même bâtiment et sont situés exactement au même étage. Et même si certaines zones sont réservées, les capteurs, les locaux, les processus, les formations sont à peu près identiques. Donc je vous ai dit, la loi, le cadre juridique, élément extrêmement important dans lequel un certain nombre de parlementaires en France ont eu un rôle majeur. Ensuite, bien sûr, des moyens, renforcement, une ébauche de doctrine pour savoir comment nous allions répondre. Nous ne croyons absolument pas en France à une réponse informatique, à une crise informatique. Par contre, une attaque informatique ne restera pas impunie. Donc l'État français se réserve le droit de répondre par tout moyen à sa disposition, politique, diplomatique, légal, policier, sans s'interdire de recourir, si nécessaire, aux moyens coercitifs du ministère de la Défense, ces moyens n'étant pas forcément des moyens informatiques. En tout cas, dans ce cadre-là, la capacité offensive a le rôle d'aider et d'accompagner la caractérisation de la menace pour savoir qui exactement nous a attaqués. Donc derrière, la France a aussi mis en place une stratégie nationale du numérique. dans laquelle il y a un pan entier aujourd'hui consacré au domaine défensif. Je pense que la prochaine loi de programmation qui va être démarrée sera un fort renforcement des capacités du ministère de l'Intérieur à travers la cybercriminalité, à travers la coopération avec Europol, à travers un certain nombre de coopérations entre les services de renseignement intérieur et les services judiciaires, notamment beaucoup poussées par tout ce qui touche au terrorisme et ce terrorisme qui utilise en particulier les réseaux sociaux. Au sein du ministère de la Défense, bien sûr, nous venons de mettre en place le commandement de cyberdéfense depuis janvier et aujourd'hui il est inscrit dans la loi depuis le mois de mai. Depuis 2011, nous avons mis en place progressivement, pas à pas, une cyberdéfense à qui nous avons donné pas à pas davantage de responsabilités, donc avec une certaine continuité, parce que l'élément le plus important, c'est de ne pas privilégier l'organisation, une organisation cible par rapport à la mission, puisque les attaquants, eux, n'attendent pas qu'on soit organisé pour commencer à nous attaquer. Donc la mission a été la chose que l'on a privilégiée à partir d'une petite plateforme de commandement, peu de gens, mais qui avait l'appui du chef d'état-major des armées et du ministre pour donner des ordres à l'ensemble des autorités, directions et services du ministère et faire en sorte que le niveau de sécurité soit relevé. Progressivement, le paysage a été évolué. Lutte informatique offensive, soutien aux opérations, volet défensif, volet prévention, volet protection. Donc aujourd'hui, le commandant de cyberdéfense est compétent sur l'ensemble des aspects allant de la prévention à l'engagement de nos ennemis. L'engagement de nos ennemis, ce dont nous avons pris conscience aussi depuis à peu près 2014, c'est que l'espace numérique est global, il n'y a pas que le son technique, et on a vu éclater l'emploi par nos ennemis des réseaux sociaux, par le terrorisme, qui exploite parfaitement l'ensemble des réseaux sociaux et toutes les failles de ces différents réseaux qui permettent d'aller s'abriter dans des zones où, légalement, les États ont beaucoup de mal à toucher. Tout ça a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là. Les GAFA ont fait beaucoup de choses pour aller chasser la propagande, mais la propagande, notamment de Daesh, la propagande islamique, est toujours un mal que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Au niveau opérationnel, le Comcyber attaché directement au secrétaire-major et au ministère de la Défense, le contrôle opérationnel des forces. Ensuite, il a bien fallu. Et ensuite, nous avons intégré la capacité de cyberdéfense, la prise en compte de cette façon de travailler à l'ensemble de nos processus militaires de ciblage. Et nous travaillons au sein du CPCO. Moi, j'appartiens au centre de conduite des opérations des armées. Mes bureaux sont à l'intérieur de ce centre. Je n'ai quasiment peu de relations avec la chaîne CIS ou la chaîne des systèmes d'information du ministère de la Défense, sauf que vis-à-vis d'eux, je suis un donneur d'ordre. Je ne suis pas du tout subordonné au chief information officer du ministère de la Défense. C'est plutôt j'agis vis-à-vis de lui par veto, en lui imposant un ensemble de choses, en lui imposant un ensemble de mesures, quand j'estime que le ministère est menacé. Donc c'est une autorité qui est réellement une autorité plus opérationnelle. Donc dans tous nos processus opérationnels de ciblage, nous regardons aussi dans nos opérations du ciblage cinétique et de plus en plus du ciblage non cinétique pour obtenir les effets de nos opérations. Ensuite, on a bien pris conscience que l'élément le plus important, c'était notre ressource humaine. Donc nous allons concentrer nos ressources humaines dans une zone le plus proche possible. Donc nous avons fait le choix de concentrer cette ressource humaine dans la zone de France qui est la Bretagne, non pas parce que Monsieur Jean-Yves Le Drian, notre ancien ministre, était breton, bien que ça ait beaucoup aidé les choses, mais parce que dans cette zone, nous avions déjà beaucoup de concentration. Donc dans cette zone, nous avons aussi, pour permettre une certaine porosité avec le secteur civil, créé une sorte de cluster qui met autour de nous de très nombreux industriels de la défense, mais aussi des grands OIV comme la Poste, comme l'EDF qui fournit l'électricité ou comme la SNCF, parce que ça représente des gros marchés et ça représente des approches assez communes pour peser sur nos industriels de fournisseurs de sécurité. Derrière ça, on travaille beaucoup en matière de recherche et développement avec l'ensemble des universités françaises qui ont envie de travailler avec nous. Il y en a plus de 25 sur l'offre de formation. Donc ce pôle d'excellence situé en Bretagne repose sur un très nombre important d'ingénieurs, plus de 600 ingénieurs en réseau et plutôt en régie employés par l'État. Donc c'est un élément important de notre stratégie de cyberdéfense, le lien avec l'industrie et le lien surtout avec tous les organismes de formation. Je stoppe là mon témoignage pour laisser du temps de parole à mes camarades, mais voilà, c'était un petit peu le témoignage que je souhaitais vous donner.
portanto, terá agora a palavra.
Donc, maintenant, Christian Marc Liftlander, qui est le chef de la section de cyberdéfense de division des défis émergents à la sécurité de l'OTAN. Il a eu des responsabilités dans le ministère de la Défense d'Estonie. C'est un ancien militaire des armées en Estonie et il vient d'un pays qui a été l'un des premiers pays qui a eu une attaque cybernétique. Monsieur Christian Marc Liflander a collaboré et a eu des responsabilités dans les domaines de l'information, mais aussi dans la guerre électronique, les questions ou les politiques de défense cyber au niveau de l'Estonie, et aujourd'hui, il a des responsabilités au sein de l'OTAN. J'aimerais vous dire que j'ai eu l'occasion d'inviter l'actuel ministre des Affaires étrangères d'Estonie, qui est un ami personnel, Monsieur Selmikser, qui a été ministre de la Défense, donc qui a participé à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mais il a été empêché, il a eu un empêchement, donc il n'est pas là. Quoi qu'il en soit, nous avons quelqu'un qui représente l'Estonie de façon excellente. Donc, merci de votre présence et vous avez la parole.
Good morning. Hello.
Bonjour. Permettez-moi de remercier le modérateur pour ses aimables paroles et la Commission nationale de défense pour m'avoir invité. C'est pour moi un plaisir d'être ici parmi vous, un plaisir aussi de sortir de Bruxelles et de venir rejoindre le soleil de Lisbonne, ce qui est unique. Et permettez-moi de dire que la beauté est chez celui qui la possède. Et dans le cas de l'OTAN, nous avons une base de l'OTAN qui nous permet d'organiser des activités au niveau politique afin de pouvoir conseiller les chefs de l'OTAN et en reporter au ministre de la Défense plusieurs fois par an. En ce qui concerne le point de la situation, de l'Alliance et à la Défense en particulier, en premier lieu, j'aimerais commenter les paroles de l'orateur précédent et dire que cet événement est en ce qui concerne la campagne WannaCry, donc ce qui était extrêmement grave dans le cas de ce type d'attaque. Et en ce qui concerne le WannaCry, ce virus, il a donc attaqué des entités financières. Et si nous analysons les chiffres, 150 nations ont été affectées. Et le nombre, le nombre. Donc, $300,000 ont été demandés. Donc, mais il y a des services critiques qui ont été interrompus, des structures de services de santé au Royaume-Uni, par exemple. Et par conséquent, lorsque j'analyse ce qui est arrivé, je peux vous dire que les pratiques du cyberespace, ces pratiques sont en train d'augmenter. Elles sont loin d'être nouvelles, de constituer une nouveauté. En 2008, par exemple, il y a moins de 10 ans, donc il y a le ver qui a affecté différents pays, plus de 90 pays. Et il est évident que cela a exigé la participation avec l'industrie afin de mettre fin à cette attaque. Plus tard, nous avons continué à vérifier des attaques à large échelle des attaques plus graves. Et cette question a été mentionnée à plusieurs reprises, mais comme Estonien, je me sens obligée de dire que nous venons de fêter le 10e anniversaire de l'attaque générale à notre pays. Mais que signifie tout cela en termes quantitatifs? Donc j'aimerais dire que les risques qui ont un impact sont extrêmement élevés. Le nombre qui nous amène à croire que donc l'attaque donc certaines attaques sont vraiment sournois et leur impact sont difficiles quelquefois à définir. Et par ailleurs, nous savons que la cybersécurité est un coût et c'est un différenciateur pour les affaires qui finissent par voir leurs investissements minés. Et la cybersécurité et la cyberdéfense sont des questions. Nous avons l'impression que ce sont des matières qui ne concernent que les techniciens, mais cela n'est pas vrai. C'est une question nationale et de défense nationale qui concerne tout le monde. Mais comment arriver à la cybersécurité? Donc cela dépend du gouvernement, des agences, mais j'aimerais vous parler de la mentalité, qui peut nous permettre qu'aussi bien nous que l'Alliance puisse arriver à des niveaux plus élevés de sécurité. Mais la sécurité, la cybersécurité exige d'analyser les choses en profondeur afin d'éviter ou mitiger les risques. Mais ce qui rend le risque cybernétique différent des autres, c'est son invasion, son effet invasif, car il touche différentes organisations, affecte différentes organisations et différents acteurs de la société. Donc si je compare le cyberattaque avec un autre risque, c'est le risque d'incendie, par exemple. Il y a différents espaces qui... il y a des normes de construction pour les matériaux, identifier les sorties de secours, les entrées, le temps de réponse pour les incendies sont définis. Mais la question du cybermonde, nous vérifions que les règles qui sont applicables à l'incendie ne sont pas les mêmes que celles appliquées à la cybernétique. Donc, qu'est-ce que chaque pays doit faire en cas d'accident? En cas d'incident, c'est difficile à identifier. Et les entreprises dépendent beaucoup aussi de l'étranger pour acheter leurs propres équipements, par exemple. Et les vendeurs sont des agents de ces virus, quelquefois. Donc l'on ne peut pas adopter une attitude commune de la part de tous les organismes de défense. Mais la question de la cyberattaque exige des mesures très particulières au cas par cas. Et nous devons augmenter notre capacité de défense étant donné que nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre sécurité. En d'autres termes, nous ne sommes pas parfaits. Étant donné que notre monde est en constante mouvance et devient de plus en plus informatique à cause de l'Internet des objets, et nous devons agir, anticiper, améliorer nos actions. Mais comment ? Nous devons réfléchir à la cyberdéfense du point de vue de la question de la résilience. J'aimerais vous donner une bonne définition de la cyberrésilience qui a à voir avec l'adaptation des nouvelles initiatives et de régler les attaques qui sont réalisées contre les structures. Donc c'est un travail continu, construire la différence et la récupération des données qui ont été attaquées, qui ont fait l'objet d'attaques. J'aimerais aussi vous parler de l'OTAN et de nos alliés qui adoptent cette mentalité de résilience. Il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Comme nous l'avons entendu ce matin au cours de le sommet de Varsovie de 2016, les alliés se sont engagés à renforcer les cyberdéfenses des réseaux nationaux et de leurs infrastructures. C'est une priorité clé. Mais même ces cyberdéfenses résilientes sont un élément clé pour nos structures. Pour que les alliés se sentent sûrs, alors j'aimerais dire que à chaque fois qu'on analyse les choses, nous vérifions que les membres de nos alliances mettent en place réellement un programme de défense et nous sommes en train de le préparer pour le remettre au gouvernement et préparer des mesures légales. Mais j'aimerais souligner d'autres aspects. L'évaluation, par exemple, part du principe que les politiques nationales, en ce qui concerne la cyberdéfense, ont été définies et il s'agit de donner une priorité à la capacité de développement des compétences. Par ailleurs, cette évaluation mitige en quelque sorte la capacité de la cyberdéfense et cela exige qu'il y ait une plus grande coopération entre les agences de défense et un véritable partage des expériences entre parmi l'Alliance. Sur la base des résultats obtenus, les alliés doivent continuer à renforcer la cyberdéfense, augmenter les exercices de cyberdéfense et mettre en place une hiérarchie au niveau de la cybersécurité. Par ailleurs, créer des alliances à ce niveau-là avec des pays et des organisations internationales, avec des industries et le milieu académique, le milieu universel est fondamental pour renforcer nos défenses. En premier lieu, donc c'est là une première analyse au niveau de cette mise en place, mais j'espère que cela sert d'encouragement et à d'autres organes internationaux afin qu'ils préparent leur propre défense. Mais l'Alliance doit s'engager dans la défense de ces défis au niveau du cyberespace. Dans le sommet de Varsovie, nous avons reconnu le cyberespace comme des opérations un domaine dans lequel les alliés doivent se défendre aussi efficacement qu'en mer, terre et air. Et beaucoup de choses ont été faites au niveau de cette décision. Cela, il faut qu'il y ait un changement de mentalité, de planification, et cela implique une formation. Pour nous, cyber, c'est pas uniquement une discipline technique qui permet de réaliser des missions. Nous la voyons comme un environnement qui est nécessaire pour mener à bien certaines missions. C'est un environnement qui a un potentiel qui peut être affecté par différentes menaces. Et si nous comprenons, n'analysons parfaitement le cyberespace, si nous le connaissons parfaitement, alors nous pourrons anticiper les menaces. Et il est important que nous préservions la résilience de nos missions. Nous espérons que cette reconnaissance du cyberespace et de son domaine puisse permettre que de nouvelles opérations soient réalisées dans d'autres domaines. Il est important de dire aussi que les aspects que cette déclaration ne couvre pas. Par exemple, la position de défense de l'OTAN, nous avons dit à plusieurs reprises que l'Alliance continuera à suivre le principe de la restriction et agir conformément à la loi internationale. Et nous promouvons la sécurité dans le cyberespace. Mais qu'est-ce que cela implique pour les États? et pour l'état actuel de l'Alliance et pour les alliés, les États alliés. Comme je l'ai dit, il y en a plusieurs, mais rien de tout cela n'est suffisant. Laissez-moi revenir à mon point de départ. En ce qui concerne les murs de WannaCry, les outils dont nous pouvons disposer pour attaquer WannaCry existent déjà. Bon, cela ne signifie pas que le ciel nous tombera sur la tête demain, non. Mais cela nous amènera à constater que nous devons prendre des mesures spécifiques. Mais notre débat aujourd'hui nous rappelle un argument pertinent. Comment pouvons-nous augmenter notre cyberdéfense? Nous devons gérer les risques cybernétiques de façon plus optimale. C'est là l'un de nos objectifs. Et il est évident que nous voyons de plus en plus d'équipements qui sont susceptibles d'être attaqués au niveau cybernétique. Cela ne veut pas dire que nous arriverons à trouver une recette pour tout cela, mais les solutions doivent être appliquées dans le secteur privé et mondialement, autant que faire se peut, afin de mieux gérer les risques et adopter donc une position plus ciblée. Et je me dirige à vous, le Portugal est un pays leader dans nos initiatives les plus importantes en ce qui concerne la formation. Et j'aimerais donc attirer votre attention sur le fait que beaucoup d'alliés sont en train d'analyser ces projets, ont les yeux rivés sur le Portugal, afin qu'il y ait une fondation qui augmentera la capacité industrielle et la formation nationale. Mais l'aspect central de l'information et de l'information afin d'augmenter les capacités de la défense cybernétique, alors c'est un effort décisif qui doit être réalisé, car avoir du personnel bien préparé est un élément clé pour défendre le pays. Les alliés ont les yeux rivés sur le Portugal, je le répète, et vos partenaires d'ailleurs, afin de mettre au service de l'Alliance vos capacités. En deuxième lieu, nous devons continuer à investir dans les capacités et dans les personnes. Il s'agit de renforcer la cyberdéfense. C'est l'un des domaines où nous devons nous concentrer.
Of an IT every IT project should be a budget managed at the national level across all.
Donc il faut répondre à toutes ces questions, et je vous encourage à investir dans la cybersécurité. Cela coûte de l'argent, mais le développement des ressources humaines est également essentiel. Nous avons parlé de l'importance de cette importance. C'est une composante critique. Et enfin, nous devons continuer à encourager une bonne coopération entre les gouvernements, les agences nationales et l'industrie. Le cyberespace est interconnecté. Nous sommes tous interconnectés dans les cyberespaces. Et le cyberespace ne pourra être protégé que si nous agissons de concert. Nous avons différents partenaires qui sont très actifs. Nous avons signé différents protocoles dans ce domaine, avec la Finlande, par exemple. Et nous avons renforcé notre coopération avec l'Union européenne. Nous avons beaucoup travaillé avec l'équipe cybernétique. Donc nous partageons des informations avec les équipes cybernétiques de défense. Donc tout est partagé avec l'Union européenne et nous travaillons donc en équipe. Et l'OTAN fournit un soutien aux Nations Unies et des informations aussi. Donc, nous voulons avoir un cyberespace plus transparent. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières et cela exige de nous une expertise incroyable. Donc, il importe de renforcer nos rapports avec les industries et les universités. Donc, afin de mieux nous défendre, il faut que l'on continue à avoir confiance dans le cyberespace. Nous devons concentrer nos efforts sur la constitution de grands réseaux forts avant que n'apparaissent les grandes crises. Et j'aimerais vous remercier donc pour conclure, pour m'avoir reçu ici aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi vous dire que nos capacités de réponse s'améliorent, mais nous ne serons plus forts que si nous travaillons ensemble pour pouvoir répondre à cette cybermenace. Merci beaucoup de votre attention.
Je donne tout de suite la parole à Monsieur le colonel Paulo Fernando Viegas Nunes. Ensuite, nous allons procéder à une courte pause pour ensuite pouvoir échanger avec tous les éléments qui participent à ce panel. Mais je voudrais vous présenter tout d'abord Monsieur le colonel Paulo Viegas Nunes. Tout d'abord, je tiens à le féliciter parce qu'il est le commandant de l'école donc de l'OTAN en termes de communication, donc de l'école de communication et système de l'information de l'OTAN. Il commence à exercer ses fonctions dans des locaux ont été inaugurés on a lancé la première pierre hier à Oeira, ici donc près de Lisbonne. Et je tiens à l'en féliciter. Monsieur le colonel est associé à beaucoup d'initiatives, à beaucoup de groupes de travail, notamment concernant les questions cybernétiques. Il a participé donc à différents projets de l'OTAN dans le cadre de l'éducation et de la défense du système cybernétique. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que la collaboration entre l'OTAN et l'Union européenne est essentielle. Il a également participé à d'autres groupes pour la défense cybernétique. Et c'est pour cela qu'il a été choisi pour exercer ce poste. Et je crois que c'est l'une des personnes les plus opportunes pour nous parler de cette thématique et pour nous dire précisément ce qui se passe également au Portugal dans le domaine de la défense cybernétique. Merci beaucoup de votre présence. Et vous avez donc la parole, monsieur le colonel. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur Miranda Cargue. Je tiens également à saluer les membres du panel, Monsieur le vice-amiral Arnaud Coustillère et Monsieur Christian Marc Liedfander. C'est pour moi un grand honneur d'être ici dans la Maison de la Démocratie et de venir partager avec vous quelques réflexions concernant ce domaine très important qui est le fait de travailler dans le domaine de la cyberdéfense. Je vais essayer de faire mon intervention non pas en tant que commandant de l'école de communication des systèmes de l'information de l'OTAN, qui est ma fonction que j'exerce à l'heure actuelle, mais surtout en tant qu'académicien, vous faire part d'une réflexion et profiter surtout de l'occasion qui nous rassemble ici et de vous faire part de quelques idées, quelques concepts, en ayant la notion que je suis dans une position peu confortable parce que je suis entre l'assemblée et la pause déjeuner. Ce n'est pas facile donc de parler avant le déjeuner. Bon, je vais essayer de vous faire un petit peu un cadre général sur le cyberespace, l'impact que cela a en termes stratégiques et opérationnels, et ensuite faire également le cadre de la cybersécurité, cyberdéfense, et vous parlez de la cybersécurité, voir quelles sont les priorités qui ont été arrêtées sur le plan d'action. Bon, je crois qu'on a déjà plus ou moins parlé de cet environnement. Il s'agit d'un environnement donc où la surface d'attaque est très vaste, où fréquemment on est touché par tout ce qui se passe en réseau, parce que nous sommes tous connectés en réseau, et dans ce réseau, il y a des connexions, il y a les forces armées, il y a les infrastructures critiques, il y a en somme tout ce qui est rattaché les uns aux autres. En fait, tout est interconnecté. Le cyberespace n'est pas un espace tangible, mais à sa géopolitique, comme on a déjà eu l'occasion de le dire ici aujourd'hui. Cette image que vous voyez à l'écran nous transporte vers le domaine dans lequel nous nous trouvons, dans l'interaction virtuelle, mais qui est cartographiée sur le plan géographique. Donc, en fait, c'est la carte monde. Il y a des escales horaires, il y a donc... ils ont la monnaie, ils ont un modèle de gouvernance... Ils ont un modèle de propriété. Si tout se passait sans aléas, sans problème, et si cet environnement n'était pas contesté, parce qu'il s'agit évidemment d'un monde où il y a énormément d'interconnexions, peut-être qu'on vivrait dans le système abstrait le plus démocratique au monde, parce qu'il s'agit d'une communauté collective et d'un espace et un environnement qui est partagé par tous. Mais ce qui arrive nous montre précisément qu'il s'agit d'un chemin avec énormément d'obstacles. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, sa physionomie a changé. Tout ceci a été donc pris en charge par des réseaux sociaux et on a donc un petit peu, on s'est approprié de cet espace stratégique. On s'approprie cet espace, nous avons des systèmes de surveillance, il y a des acteurs qui souhaitent à y mettre en œuvre ces stratégies, mais il y a d'autres qui souhaitent à contrarier leur stratégie. Beaucoup de ces acteurs qui sont individuels, ce sont des groupes, il ne s'agit pas d'État, essayent de contester l'hégémonie et la maîtrise de cet espace par d'autres acteurs qui ont une nature globale. Nous avons donc des organisations et des groupes qui défient carrément les États et les territoires des États, et donc inévitablement cela nous amène vers un standard qui n'est pas du tout confortable, c'est-à-dire si on ne fait rien pour contrarier cette dynamique, on va finir par avoir des conflits dans cet cyberespace. Et ce conflit est toujours présent. En fait, on ne parvient pas aujourd'hui à définir dans quel état nous nous trouvons parce qu'on est en permanence sous attaque. Et on ne parvient pas à distinguer ce qui est une situation de paix d'une situation de conflit. On vit déjà, comme cela a déjà été dit, dans un système de guerre hybride, c'est-à-dire guerre indéfinie. Est-ce que cela a du sens de parler de guerre hybride ou de paix hybride? Donc c'est cette définition du cyberespace qui est en train de se mettre en œuvre. Donc le cyberespace aujourd'hui est une scène d'interaction et d'action militaire où on projette le pouvoir, où on articule également des forces. Et ce que l'on peut attendre de ce cyberespace, comme quand l'aviation militaire a surgi, c'est le développement d'un domaine de conflit. On va assister dans ce cyberespace, à cause des transformations technologiques qui se sont produites, à une évolution de l'appropriation de ce domaine par la composante militaire. Ce dont nous sommes en train de parler ici aujourd'hui, c'est une militarisation de cet espace que jusqu'à présent l'État n'était pas visible et qu'il faut donc être prudent, il faut faire preuve de compréhension de cet cyberespace. Cet espace ne ressemble pas à la mer, à l'air ou à la terre. Et d'ailleurs, les États ont une incapacité, n'ont pas d'autorité sur cet cyberespace. C'est donc un espace autonome qui a des caractéristiques propres. Et grâce à cette dynamique, se développe, c'est-à-dire on passe d'une unité de commandement à une unité d'action. Mais ce qui est le plus difficile dans cet cyberespace, ce n'est pas son entité en tant que domaine opérationnel. Ce sont ses répercussions, implications qui sont transversales et qui vont affecter en permanence tous les autres domaines. Et c'est là la difficulté que nous avons aujourd'hui. Comment maîtriser un espace qui est un espace de projection de pouvoir et qui, à la fois, est un espace qui va affecter tous les autres domaines qui dépendent, à cause de l'évolution technologique, qui dépendent fortement de l'utilisation des technologies d'information. Comment peut-on quotidiennement résoudre et régler donc et maîtriser cet espace? C'est un espace qui est en construction. Il y a là une dualité du sur le plan stratégique. À travers le cyberespace, on peut protéger nos forces. À travers ce cyberespace, on a de nouvelles opportunités d'influencer nos adversaires dans tous les domaines via des opérations et des actions concrètes. Et le cyberespace doit être perçu comme étant un élément qui favorise la manœuvre de nos forces. Bon, je vous parle dans un langage typiquement militaire. J'essaye de un petit peu faire simple, mais il y a un document écrit, il y a des documents écrits qui sont partagés par les États au plus haut niveau et qui font des choses différentes. Si on regarde les défis qui se présentent aux forces armées, aux armées, les armées n'ont jamais été aussi confrontées à une spirale de transformation comme celle que nous avons aujourd'hui, que ce soit en l'armée de l'air, l'armée de terre ou la marine. Il faut défendre cet espace. La mission de nos nations évolue progressivement et je suis très bénévole quand je vous parle des estimations que je vais vous présenter. Pour d'une certaine façon, mettre en œuvre une mission sur le plan terrestre, nous avons besoin d'avoir 2 jours pour mettre en œuvre déployer cette mission. Pour le naval, 2 heures, pour l'armée de l'air également 2 jours, enfin, ou 2 secondes, donc, pour l'armée de l'air. Si on est trop précis, des millésimes de secondes. Donc, le temps des réactions disponibles pour protéger ce domaine est donc bien inférieur et c'est un driver qui va nous pousser vers des systèmes automatisés où l'être humain doit se concentrer de plus en plus sur le domaine de l'interaction avec un niveau supérieur qui n'est pas le niveau des machines. L'être humain est introduit dans ce loop via donc un système et sur le plan du processus de décision, c'est difficile à gérer tout cela. C'est pour ça qu'il faut fortement miser sur l'éducation et la formation de notre personnel. Il faut créer une capacité dans ce domaine, une capacité de connaissance intensive. Clausewitz disait que la guerre était le fruit de différents domaines, notamment l'expression, il disait que les guerres étaient la suite de la politique, mais par d'autres moyens. Il disait quelque chose qui est très important pour ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il disait que la guerre était la caractéristique de l'époque, était influencée par les aspects particuliers de chaque domaine et de chaque conflit. Et c'est vrai que face à cette situation, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que la guerre est la continuation, la suite de la politique, mais la politique est aussi la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc les CNO, les cyberopérations dans les réseaux d'ordinateurs vont être présentes dans toutes les opérations militaires. Et j'aimerais vous dire ça clairement, je ne suis pas parmi ceux qui croient que la cyberguerre va contrôler tout le phénomène de la guerre, va être prépondérante. Non, mais c'est vrai que sans cyberdéfense, il ne sera pas possible de vaincre aucun conflit dans les autres domaines. La cyberdéfense sera une composante fondamentale, essentielle pour le déploiement de la coalition et pour défendre donc les États au cours du XXIe siècle. Une autre réflexion qui nous montre comment ce trajet est inévitable, c'est la logique économique. On s'est habitué à différents investissements. Et dans le domaine de la défense, donc il y a beaucoup d'investissements qui se font parce que ça a une contribution très importante pour la sécurité et la défense des populations. Et sans cette défense, il n'y a pas de développement possible. On voit les montants qui sont associés aux armements qui baissent en fonction du domaine et de l'espace de projection du pouvoir jusqu'aux cyber-armes. À partir du moment où nous avons les cyber-armes, la dynamique, la logique va s'inverser. On investit moins et on atteint beaucoup plus sur le plan opérationnel. Un domaine d'opération militaire, une arme d'opération militaire dans le cyberespace est globale. Il s'agit du monde entier, donc, et ceci comporte en soi une logique en termes de capacité vraiment qui est un véritable enjeu. Si on se concentre sur le montant qui sont associés, il y a une limite que j'ai placée ici à l'écran. Le développement d'une cyberarme pour atteindre un type spécifique, donc une cible spécifique, c'est environ 5 millions de dollars. Et c'est là que de plus en plus on va se voir confronté avec les asymétries et avec la dynamique disruptive de beaucoup d'acteurs en ce qui concerne notamment l'ordre social. Il y a les groupes terroristes, il y a des groupes qui sont mécontents, il y a le cybercrime qui peuvent avoir accès à ce type de mécanisme pour provoquer des dommages aux sociétés modernes. Ce graphique est également intéressant. C'est un graphique pictural, mais qui nous montre la probabilité et l'impact d'un événement dans le cyberespace. On voit que le piratage est constant et que l'action des États est ponctuelle, mais leur impact est très fort. Donc la dynamique nous pousse vers le centre, ce qui veut dire qu'on va arriver à une situation où le piratage va avoir un impact très fort et permanent, et les États vont avoir un impact très fort et constant dans le cyberespace. Cela veut dire que rien n'est fait. Si rien n'est fait, on va s'acheminer inévitablement vers une logique conflictuelle très forte. Et donc, il faut se préparer parce que l'auteur de ce graphique a prévu un espace temporel d'ici 2020. Donc, 2020, c'est bientôt. C'est très prochainement. Nous, comme société, nous ne sommes pas préparés pour faire face. Et l'Estonie, malheureusement, hélas, a déjà eu cette expérience il y a 10 ans. On fête cette année donc le 10e anniversaire de la cyberattaque à l'Estonie. Donc, d'un moment à l'autre, tout ce qui est essentiel pour notre vie peut disparaître. D'un coup, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de communication, on n'a plus de banque, on n'a plus de services de santé. Donc, les services de santé vont être fortement touchés. Il n'y a pas de système de contrôle de trafic aérien, ni naval, ni terrestre. En fait, c'est la vraie catastrophe. Ça serait vraiment le... pire des cauchemars. Donc, et tout ceci dépend de cyberespace. Notre société est hautement dépendante de cet cyberespace. Comment peut-on construire un chemin qui nous emmène vers un développement avec des capacités structurées? Il faut comprendre le cyberespace. Il faut comprendre que pour faire face à des acteurs extérieurs qui nous attaquent dans le cyberespace, nous avons besoin d'une capacité de défense qui va au-delà des frontières de l'État et qui protège l'État contre les menaces extérieures. Mais on ne peut pas non plus mettre de côté la protection des structures critiques qui permettent aux citoyens, aux organisations d'avoir accès, comme le disait monsieur le général, le chef-major des armées, avoir accès à un espace libre, ouvert et sûr et qui serve de scène pour l'exercice de la citoyenneté de manière élargie dans nos sociétés modernes. Sur le plan du cadre légal, et cette question se pose fréquemment, on a plus ou moins typifié quel est le cadre d'action des forces armées en termes donc cybernétiques. Cinétiques, pardon. Donc le bon sens va nous amener à utiliser les mêmes bases, les mêmes mécanismes que les forces armées dans le domaine cinétique. Pourquoi ? Parce que ce sont des effets qui vont être projetés sur le domaine cinétique, bien qu'on l'utilise comme interface ou comme élément donc intermédiateur, le domaine cybernétique. Donc, chaque attaque cybernétique qui affecte les structures critiques, qui remettent en cause la souveraineté d'un pays... Et si l'on parvient de manière directe à identifier une situation de menace potentielle au pays comme un tout, une menace nationale, lorsque les réseaux des forces armées sont attaqués, lorsqu'il y a une agression de la part d'acteurs externes, donc les forces armées doivent réagir. Donc il faut en avoir conscience. Si les forces armées ne parviennent pas à assumer et assurer cette mission, elles ne sont pas en train de respecter donc leur rôle. Et les forces armées sont au service des Portugais, sont toujours préoccupées avec cet enjeu énorme qui se pose dans le cyberespace. Ce graphique cherche à structurer et à systématiser les idées. On ne peut pas créer des disruptions entre domaines cinétiques et non cinétiques. Ceux qui vont traiter des phénomènes dans le domaine physique vont devoir également traiter des phénomènes dans le domaine virtuel. Cela veut dire que les forces de sécurité qui luttent contre le crime doivent lutter contre le cybercrime. Les forces de sécurité qui travaillent et qui contrôlent les foules et l'activisme doivent contrôler l'activisme. Les services d'information qui luttent contre l'espionnage et le terrorisme doivent avoir des responsabilités pour lutter contre le cyberterrorisme et le cyberespionnage. Et bien évidemment, les forces armées qui font la guerre et qui sont responsables de la coercition et des forces donc vont être également responsables de la cyberguerre. Ça, c'est le cadre institutionnel. Comment peut-on donc opérationnaliser toutes ces actions concertées de ces entités en plaçant un domaine technique qui les met en contact permanent et de coopération? C'est le réseau, donc, sorti, SEC. Le réseau SEC, il y a eu un protocole qui a été signé entre le Centre cyber des forces armées et le Centre national des forces de sécurité qui essaye de mettre en place des mécanismes de coopération à ce niveau-là pour que le passage de responsabilité et la participation dans la résolution des crises soient transparentes, faciles et articulables dans les limites temporelles qu'une cyberattaque place en termes d'action. Rien ne peut être fait entre l'articulation entre la composante nationale et internationale. La coopération internationale est fondamentale. On ne pourra jamais lutter contre des menaces globales avec des réponses locales. On ne parviendra pas à le faire, on ne parviendra pas à accompagner la dynamique de la menace, et elle est très forte comme on a pu le montrer. Sur, donc ici, nous avons au sommet de cette pyramide ce plafond qui n'est pas encore construit. Sur le plafond de ce bâtiment, nous avons besoin, sous urgence, d'avoir une entité qui fasse la coordination de la gestion de crise, qui soit responsable de la mise en œuvre de la stratégie de la cybersécurité et cyberdéfense. Et je serai donc l'appeler, même si le nom n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la fonction, le Conseil national de cybersécurité. Et j'aimerais laisser clair que je ne suis pas en train de défendre un conseil différent des autres. Je crois qu'il doit y avoir un seul conseil de gestion de crise, et en fonction de la typologie de la crise, la constitution du conseil devra changer. C'est une vision d'un académicien, pardonnez-moi ceux qui ont de la responsabilité de légiférer à ce propos, mais moi je prends, avant le déjeuner, donc j'ai pris la liberté de partager avec vous toute cette pensée, de vous lancer ces défis. On peut voir ainsi l'articulation entre cybersécurité et cyberdéfense parce qu'elles doivent coexister, cohabiter, s'articuler en termes opérationnels. En pratique, on est en train de dire qu'il faut créer un système qui va gérer les crises, qui permette de protéger les citoyens, de combattre le crime, de sauvegarder la souveraineté de l'État. Et pour ce faire, nous avons besoin de trois concepts d'information. Défense collective, gestion de crise et coopération internationale. C'est cette trilogie, à mon humble avis, c'est à partir de là que nous allons mettre en œuvre des initiatives qui nous permettent de manière effective de lutter contre la dynamique et la nature des cybercrises. Je vous montre ici aussi le produit d'un document de recherche qui a été remis à la tutelle et qui permet, qui souhaite surtout de mettre en œuvre une réflexion sur la concertation d'une stratégie nationale pour la cyberdéfense. Qu'est-ce qu'on voit ici à l'image ? Nous voyons tout ce que j'ai dit tout à l'heure articulé dans le domaine national, mais aussi international. Il est sûr que lorsque nous regardons les différentes couches qui ont été identifiées ici, nous voyons les niveaux d'interaction des différents acteurs. Pour prouver, par absurde ce que j'ai dit tout à l'heure, si par exemple nous n'avons pas le Conseil national de cybersécurité, éventuellement un conseil coordinateur de cyberdéfense, donc, bon, ces noms sont purement une indication, donc c'est le concept qui est important, ce n'est pas le nom qu'on va attribuer à ce genre de conseil. Nous avons également les institutions internationales telles que l'Union européenne et l'OTAN qui vont dialoguer directement avec les organes de nature technique, le Centre national de cyberdéfense ou le Centre national de cybersécurité. Et le dialogue va se faire niveau politique, niveau opérationnel avec le niveau opérationnel. Donc on a besoin, bien évidemment, de construire cette articulation et cette intégration qui n'est pas seulement verticale mais aussi transversale entre la composante nationale et internationale. Pour nous, c'est donc le chemin pour mettre en œuvre une véritable coopération effective à l'international dans le domaine de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Je voudrais faire part d'exemples concrets de cette coopération. Qu'arrive-t-il ? Le Portugal et donc l'armée de terre est en charge de la cyberdéfense. Nous avons la plus-value d'avoir créé donc une communauté dans le cadre de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Différents organismes ont participé à cet exercice. L'année dernière, nous avions 55 organisations qui n'appartenaient pas à l'armée de terre qui ont participé à cet exercice et ce fut un espace de coopération et de collaboration. Cela veut dire que même si les objectifs techniques de procédure et toutes ces composantes auront toujours été prises en compte. Vous savez, créer une communauté, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur qui puisse être mesurable. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, parce que si jamais il y a une crise, même si on n'est pas en position ou si nous n'avons pas les structures qui ont été créées, les gens ont déjà la composante personnelle et les connaissances qui les permettent de mobiliser les différentes structures et de mobiliser les différentes capacités existantes, même si ce n'est pas très structuré. Et on peut résister ainsi à une cyberattaque de large échelle. Bon, le Portugal jusqu'à présent a eu la chance. Nous avons la visite du pape le 12 et le 13 dernier. Et fort heureusement, toute l'administration publique n'a pas été très touchée par WannaCry, par cette attaque d'Internet. Mais on ne peut pas non plus abuser de cette intervention divine. Et donc, il faut surtout déployer des moyens sur le terrain. Donc, il faut mettre en œuvre une stratégie. Et c'est cette voie que j'aimerais un petit peu vous présenter maintenant. Toute stratégie qui va être développée doit avoir comme base les intérêts nationaux et ce niveau doit être crédible. Nous devons définir l'objectif à atteindre par cette stratégie. On doit l'articuler avec la réalité nationale et cet objectif doit être clair, atteignable via des lignes d'action effectives.
Afin que nous puissions accompagner l'exécution de cette stratégie. Dans la pratique, et c'est une réflexion que je vous apporte ici, ce raisonnement est purement indicateur de ce que pourrait être la construction de cette stratégie. Beaucoup de ces éléments font partie de la stratégie de sécurité du cyberespace. Ce ne sont pas de nouveaux concepts. Beaucoup d'entre eux ont fait partie de la réflexion qui ont conduit à cette stratégie, mais ce dont le Portugal a besoin, c'est de garantir la protection de son infrastructure critique, de son infrastructure d'information, information insurance, bien que l'évolution des concepts indique la mission issues, comme cela a été dit, la résilience de l'État qui est en jeu. Ce n'est pas uniquement le domaine de l'information, mais toute la composante de soutien de l'État ou de support de l'État. Et comme objectif, nous pourrons identifier garantir la sécurité du cyberespace, donc réduire le risque social et protéger sa valeur, améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'information. Nous n'oublions pas que le cyberespace existe pour être utilisé, donc c'est une vision qui permet d'engendrer de la valeur et exploiter avec efficacité l'environnement d'information. Il faut qu'il y ait une liberté d'action. Et c'est dans ce domaine que le rôle des armées est extrêmement important afin de créer un environnement sûr et de permettre l'épanouissement des start-up et de l'économie digitale ou de l'économie numérique. Donc, les pas ont été franchis, les premiers pas. Donc, il y a des documents de réflexion qui ont été élaborés, comme la valeur stratégique, information et sécurité du cyberespace, concept stratégique de la défense nationale. Dans le cadre de la réforme défense 2020, il y a une grande préoccupation au niveau de la cyberdéfense. Donc il faut développer la capacité de cyberdéfense des forces armées, des armées, et qui est la face la plus visible du développement des capacités, qui est une mission qu'il incombe de mener à bon port. Donc, il s'agit là d'une réflexion de la stratégie qui est en vert, que vous voyez à l'écran, la stratégie nationale de cyberdéfense. C'est à travers cette conceptualisation du rôle de la défense et de la vision stratégique de son articulation avec le domaine de sécurité de l'État que le Portugal pourra trouver l'espace institutionnel et opérationnel pour donner un support, un soutien à l'action des forces de défense. Et il y a clairement ici un espace de synergie et de potentiel de coopération. Monsieur le ministre Garbrandt a lancé ce défi qui a été développé par le gouvernement actuel, qui est profiter de cette fenêtre d'opportunité, le fait que le Portugal soit en tête d'un projet de cyberdéfense pour articuler et renforcer la capacité nationale de cyberdéfense et contribuer aussi à la construction de l'école de communication et système d'information qui est à Latina en ce moment en Italie, mais qui sera transférée à Wajrz et qui donnera lieu à une nouvelle académie, NATO Communication and Information Academy. C'est un concept différent qui implique une composante cybernétique d'éducation et de formation pour la cyberdéfense extrêmement pertinente et qui a pour vocation de soutenir la construction des capacités qui est en cours dans différents domaines. Donc, si nous pouvions tracer un plan d'action, j'aimerais partager avec vous 5 domaines fondamentaux. S'il n'y a pas un plan d'action qui permette de mener à bien des stratégies, alors mettre en place des stratégies, alors nous arriverons difficilement à destination. Donc, il faut créer une structure de gouvernance avec les organes que j'ai mentionnés, le Conseil national de cybersécurité, toute la structure qui permet qu'il y ait une articulation dans la gestion pour gérer les crises. Ensuite, deuxième priorité essentielle, sensibiliser, éduquer et entraîner. Cela signe former. Il s'agit de modifier l'individu, modifier sa vision afin de mieux cibler, de mieux comprendre l'attaque. Donc, information et connaissance de la situation du contexte, donc comprendre le contexte et trouver la meilleure réponse pour la crise en cause, puis ensuite investir profondément dans l'état de l'art des technologies. Quelquefois, l'on a une idée fausse. On pense qu'il faut de grandes capacités au niveau monétaire pour la cyberdéfense. Mais non, ce n'est pas vrai. Les choses sont progressives et cela servira à notre avenir et cela portera sans aucun doute des fruits. Et enfin, synergie nationale et coopération internationale. Cela doit être vu avec cet ordre-là. Nous devons faire attention à tous ces éléments pour voir où est-ce que nous allons agir et où nous allons investir dans un domaine par rapport à un autre de façon prioritaire. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous ces idées-là. Le cyberespace n'est pas limité. Il n'y a pas de frontières. Au niveau mondial, nous avons différents groupes, États, personnes au sein du même réseau, le même support d'interaction. Ce n'est pas facile à gérer. Donc, le cyberespace est le 5e domaine opérationnel des opérations militaires. Ce n'est pas une mode, cela va être permanent. C'est un domaine stratégique prioritaire de défense des valeurs et intérêts nationaux, de citoyenneté. S'il n'est pas protégé, si sa défense n'est pas assurée, la société ne pourra pas utiliser de façon libre et ouverte cet espace qui crée de la valeur dans cette société du 21e siècle. Et la construction du futur numérique a besoin d'une stratégie nationale. Il importe de revoir le cadre légal en lui donnant davantage de clarté dans certains aspects. Et le domaine international a été fertile avec des lois et des impositions qui nous obligeront à changer les choses, notamment le règlement des protections des données qui en ce moment est en cours. Est transposé dans beaucoup d'organisations de nos pays en Europe et dans le monde, car il y a des amendes sévères qui seront appliquées si cela n'est pas appliqué. Et ensuite, la structure nationale de cybersécurité et de cyberdéfense qui est nécessaire, indispensable. Donc, comment voulons-nous construire notre avenir sur le sable ou sur le rocher? Mais permettez-moi de vous. Et je recommande plutôt une construction solide pour que l'on puisse mener à bien notre dessein. Donc, les armées devront également faire partie de ce de cet espace qui est énorme, qui est le cyberespace. Merci de votre attention. J'avais prévu une petite pause pour que l'on puisse prendre un café. Et puis après, nous aurions le débat, mais nous devons nous adapter au nouveau temps et être flexibles. Et donc, nous allons passer directement aux questions que vous souhaiteriez poser. Et le café, on le prendra après. Donc, si vous voulez poser une question en ce qui concerne les interventions que vous avez écoutées, n'hésitez pas à intervenir. Jean Gabriel Rochapraer est inscrit. Vous avez la parole. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question. Non, je vous en prie. Bonjour à tous. Je commence par remercier l'invitation de la Commission de défense nationale, notamment son président. Je suis consultant international de sécurité et coordinateur du comité de sécurité de l'AFC Portugal. Je salue tous les présents, toutes les entités ici présentes. Il a été dit par tous les orateurs, pratiquement, qu'il y a un besoin d'investir non seulement en équipement, mais également dans la question humaine. Et c'est là une de mes grandes préoccupations, la question humaine, car effectivement, il ne suffit pas uniquement d'avoir des groupes de techniciens ou d'experts spécialisés qui fassent partie de groupes de travail, de l'OTAN, où j'ai le plaisir d'ailleurs, d'appartenir à un groupe de travail de l'OTAN qui est présidé par Monsieur Nunes, et je lui félicite de sa nomination. L'école de l'OTAN formera sans aucun doute des gens en la matière, mais il faut former aussi les citoyens. Et les écoles, les universités sont des structures fondamentales pour que l'on puisse transmettre cette éducation pour la cybersécurité et la cyberdéfense. La formation d'adultes aussi. Si ces adultes ont une culture de sécurité, ils peuvent être une réserve, non seulement pour éviter les attaques, mais pour que chacun d'entre nous présente une mentalité de défense qui peut être importante dans les organisations, dans les États et dans les organisations où l'on travaille tous. Donc voilà, c'était l'appel que je voulais lancer dans cette maison de la démocratie et comprendre quelle est votre opinion donc de tous les orateurs brillants qui se sont manifestés aujourd'hui. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autre intervention. Donc je donne la parole aux orateurs s'ils souhaitent faire un commentaire sur cette intervention.
Oui, je vais vous répondre extrêmement rapidement, peut-être plus que je dois partir.
Oui, je vais vous répondre extrêmement rapidement puisque je vais être obligé de vous quitter pour reprendre notre avion pour venir sur Paris. Mais effectivement, la dimension humaine est le premier élément à gagner, et on est bien sur des affaires d'éducation. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'on essaie de former des généralistes. Typiquement, au sein de la défense française, nous venons de mettre en place un master spécialisé dans la conduite des opérations de cyberdéfense, donc pas fait pour former des techniciens, parce que des techniciens et des experts techniques, on en forme. Par contre, ce dont on a besoin, c'est de gens qui soient des analystes et des gens qui soient capables de conduire et de maîtriser les opérations. Autres éléments, dont tout à l'heure j'ai parlé rapidement du pôle d'excellence Bretagne, le ministère de la Défense en France se rapproche de plus de 25 écoles, grandes universités, pour mettre en place des partenariats, mettre en place des protocoles, et nous investissons énormément dans tout ce qui est thèse, recherche, dernière chose, il y a une bataille pour le recrutement, et nous développons dans ce cadre-là une réserve citoyenne pour faire du lobbying avec auprès de certain nombre d'universités, et une réserve citoyenne pour servir de SAS entre les jeunes étudiants qui sont dans les universités, qui font de l'IT ou qui font de la cybersécurité, et l'État, puisque l'État, comme partout en France, est en train de recruter un nombre très très important de spécialistes ou d'analystes dans le domaine de la cyberdéfense, et qu'on sait très bien que nos écoles n'en forment pas assez. Donc il y a une démarche globale de l'ensemble des ministères. Ce que je dis du ministère de la Défense est aussi vrai du ministère de l'Intérieur en France.
Merci. Ok, de uma forma muito rápida e foi lançado só para...
Le Portugal est en train de cherche à développer cela parallèlement au projet de cyberdéfense, de formation en cyberdéfense qui a été lancé au Portugal. A été lancée une initiative avec l'Académie, notamment la création de deux masters, qui sont des masters internationaux aussi, et qui où participe l'industrie et l'Académie. Et il y a un cours de formation professionnelle qui a été soumis à l'IEFP et qui est en formation. Donc c'est le premier première formation professionnelle en termes de cybersécurité avec les partenaires de la société civile. Et aussi le Centre de sécurité nationale, certains éléments des armées, pétées aussi, les télécommunications. Et donc, il y a toute une dynamique qui se crée. Et il est évident que les parents, à la maison, chez nous, les parents doivent transmettre cette éducation aux enfants. Il ne suffit pas d'en parler à l'école. Il faut les éduquer pour la citoyenneté numérique. Le code d'éthique et de valeurs mis en place sont fondamentaux pour créer cette citoyenneté responsable. Merci. Comme vous avez eu l'occasion de le vérifier, nous vivons à une ère où tout se passe rapidement. Et bon, notre orateur français nous a quittés. J'aurais aimé le remercier convenablement sa participation à ce panel, mais au nom de la Commission de défense, remercier tous ceux qui ont participé à cette initiative qui est de grande actualité, comme nous l'avons vérifié de par tous les exemples que nous observons de par le monde. En ce moment, nous avons différentes préoccupations et les États ont des soucis dans ce domaine. Nous avons parlé de la question du terrorisme, mais la composante cybernétique est une composante de la plus haute importance pour notre avenir. Nous avons observé aussi que les États ont établi des stratégies en ce qui concerne ce secteur et par ailleurs structurent des institutions qui assurent la coordination et le développement de ces matières. Dans les conclusions qui ont été faites par le colonel Pauviagejnoun, il y a beaucoup d'aspects qu'il importe de prendre en compte dans nos actions au niveau national, à ce niveau-là. Les questions de la cybernétique peuvent stabiliser les choses au terme de la cyberdéfense, mais nous devons également penser à l'avenir, à un avenir qui s'accélère sans arrêt. Et le contrôle d'armes aussi dans le domaine cyber, c'est une composante dont on doit tenir compte. Il est important d'avoir une bonne préparation pour savoir où nous devons avancer. Donc je remercie la présence de tous les participants, de mes chers collègues députés et des officiers qui ont participé à cette conférence, aux diplomates qui sont venus il y a quelques jours. Nous avons reçu une ambassadrice itinérante de la Finlande qui est venue nous parler de questions de cybernétique. Elle a d'ailleurs cette fonction, dit l'orateur. Donc l'interconnexion entre les pays et la coopération entre les pays dans ces domaines-là est fondamentale. Et par ailleurs, tous les académiciens qui étudient la question apportent une contribution extrêmement précieuse pour que l'on puisse répondre à ces défis que nous avons dans ce 21e siècle. Donc un grand merci à tous. Les travaux sont terminés et Donc nous devons développer cela chacun d'entre nous. Nous tous devons participer à la construction de cet édifice, n'est-ce pas? Car les choses changent de plus en plus rapidement et nous devons contribuer à la défense de cet espace. Merci beaucoup.
E portanto toma o seu cornão.
Obrigado, senhor. Muito bom.
Obrigado por agora aqui com esse senhor. Que ele já me disse, e tal, nós trabalhamos muito ali em conjunto. E pronto.